Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur la radio mondiale, bien sûr. Et on se retrouve pour continuer à parler de football à 7h, en commençant aujourd'hui en Espagne. La Liga relancée après la 22e journée. Le classement se resserre, les Merengues battus qui lancent une polémique sur l'arbitrage, les Colchoneros qui avancent à nouveau et les Blaugrana aussi, mais un peu plus doucement, un trio. Toujours à la merci de l'Athletic Bilbao et tout cela relance donc le suspense. La CAN 2025, tout est déjà prêt au Maroc pour accueillir la 35e compétition continentale qui va changer de dimension car les Marocains misent depuis longtemps sur le sport et le football en particulier avec pour horizon une finale, qui sait, de la Coupe du Monde 2030. Ils en rêvent et vous allez nous en parler en détail. Kevin Vessière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste, on va dire, de football et géopolitique, sport et géopolitique. Et c'est pour cela que vous êtes ici. Je rappelle votre lien sur Twitter et sur Blue Sky aussi, je crois, maintenant.
Oui, c'est ça. Donc, j'ai créé un média qui s'appelle le FC Géopolitique. C'est donc qui vulgarise et décrypte les enjeux internationaux par le sport et notamment par le football.
Exactement. Grâce à Twitter ou à Blue Sky, c'est accessible à tout le monde et on en apprend plein des choses, en plus des livres que vous avez déjà rédigés. Le déclic mercato pour Randal Kolo Muani, exfiltré du PSG et déjà buteur avec les Bianconeri, l'ancien attaquant des Parisiens, commence du bon pied à Turin, n'est-ce pas Dominique Sévrac? Bonjour.
Bonjour Annie, il est parti encore à Paris, hein, n'oubliez pas.
Oui, 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 mais il est en prêt là-bas, mais je ne pense pas qu'il ait envie de revenir.
Ouais, il cartonne, il est très bien.
Ah, vous l'avez envoyé loin, lui a mis
c'est
un
pas mal,
un
le
jeu. Aux fesses,
après
c'est
Paris,
ça
le jus, ça va.
C'est pas mal. Et puis notre duo de choc est avec nous aujourd'hui dans ce studio en plein jour. Ils sont là, nos visiteurs du soir souvent.
Bonjour Annie, bonjour, bonjour à tous.
Nabil, j'aurais préféré que le bonnet quand même. Ah.
Nabil vient d'enlever son bonnet et tout d'un coup tout change dans ce studio. Bonjour Patrick Julliard.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Sans bonnet, mais
toujours aussi
bon pied, bon oeil.
Ouais, mais avec un pull irlandais, comme quoi il fait froid à quelques niveaux que ce soit sur la capitale aujourd'hui. Pierre Guérin m'a aidé à préparer cette émission avec David Finzel et Laurent Salerno est à la réalisation. Notre trio de choc derrière la vitre. Radio Foot, c'est parti.
Attention, parce que c'est ici, il y a de l'espace pour Kylian.
Oh là 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 là,
carton rouge.
Attention, Vinicius. Ah, l'arbitre va revenir à la faute, c'est au carton, c'est sûr au moins.
Non, mais l'action de
oh, franchement, le ralenti est terrible.
Mais regarde, il décolle les deux pieds.
Par derrière, non. Mais... Terrello encore avec un appel de balle. Elle, il allie le centre. Au deuxième, c'est incroyable. C'est la reprise de Romero. Celui qui avait attrapé Mbappé par derrière, qui vient marquer à la 85e minute de jeu. Le 18e, le relégable est en train de faire un coup incroyable. De battre le leader du championnat en ayant été dominé.
Une 22e journée relance donc le suspense en Liga, car les Merengues, vous venez de l'entendre, qui menaient ce championnat espagnol avec une certaine avance d'ailleurs et depuis plusieurs semaines, sont désormais sous pression. Le Real Madrid a perdu, donc chez un presque barragiste, vous venez de l'entendre. Ils sont 17e aujourd'hui au classement, battu par l'Espagnol, on va dire l'autre club de Barcelone, battu 1-0. Dominique, c'est vrai qu'on peut se dire qu'ils sont battus à la régulière. Dans le sens d'abord, avant de parler du fameux casus belli, on va y revenir sur ce fait d'arbitrage, mais c'est quand même le grand qui va chez le petit et on se dit il fallait peut-être faire aussi le travail en dehors de ce fait de jeu, on l'entendait, qui va surgir à la 61e minute.
Battu à la régulière, oui, puisque si le Real Madrid n'est pas capable de marquer contre le 18e, c'est qu'il y a aussi un souci. Quand on va parler du fait de jeu, mais quand vous êtes le Real Madrid et que vous jouez le 18e, il y a moyen de mettre 2-3 buts avec l'armada offensive qu'ils ont quand même. Même s'ils sont très sollicités, même s'ils sont... Il y a des cadences de dingue. Mais ça me rappelle que la Liga, avant, elle était un peu binaire, un peu Barça, un peu Real. De temps en temps, il y avait l'Atlético de Madrid qui s'immisçait. Aujourd'hui, c'est un championnat où...
Elle est trinaire.
Bah, en tout cas, où ils perdent des points. Le Barça aussi perdit des points, surprenants parfois, contre des clubs plutôt modestes du championnat. Donc ça devient vraiment intéressant, parce que un championnat aussi vit par son suspense. Et là, tout est remis en cause.
Mm-hmm. Nabil, c'est de leur faute finalement d'avoir perdu là-bas, où on va y venir à l'arbitrage, mais où c'est que...
Non, mais l'arbitrage, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le Real qui plaint de l'arbitrage, c'est quand même de...
Ça fait rire.
C'est la cinquième dimension.
Ça ferait rire Xavier Barré,
si on
ça
fait
c'est
le bilan de l'histoire de l'arbitrage et du Real Madrid, le ballotage est plutôt favorable, très favorable. Parfois lié à l'incompétence, parfois...
Mais alors pourquoi ils ont buté sur cette équipe?
Parce qu'ils n'ont pas été efficaces devant le but, tout simplement. En face, il y a une équipe qui finalement...
On croyait qu'ils allaient un peu mieux, surtout...
Non, mais en fait, c'est une équipe qui ne maîtrise pas grand-chose depuis le début de saison. Elle est moins bonne que l'année dernière. Sur des gros rendez-vous, elle s'est fait massacrer par le FC Barcelone. En Ligue des Champions, on les a vus aussi en difficulté. Alors, il y a beaucoup d'absents. Il y a aussi un système tactique qui a un peu changé. Il y a l'arrivée d'Mbappé qui a peut-être joué sur l'équilibre défensif global de l'équipe. On a vu qu'il avait aligné 4, quand il en aligne 4 devant, c'est-à-dire 4 fantastiques entre guillemets, bah, face au gros ça passe pas, et là bah, face à un petit bah, c'est pas passé non plus. Donc je pense que c'est globalement un Real en courant alternatif. Alors le Real, il est fort quand on sonne la cloche dans le dernier tour. Donc peut-être que les ajustements seront apportés dans le sprint final du championnat ou en Ligue des Champions. Mais moi, globalement, pour moi, c'est une équipe en fait qui maîtrise pas quoi. Mm-hmm. Et donc elle est pas à l'abri de se faire prendre par le 17e qui réussit une transition offensive admirable. Et puis voilà.
Patrick, dans la même ligne que nos deux camarades.
Ouais, totalement. Surtout sur l'arbitrage.
Oui, alors sur l'arbitrage, Nabil a tout dit avec des mots
cinglants
et efficaces, donc j'en dirai pas davantage. Sur le Real, je trouve que c'est une équipe qui n'a pas d'équipe type. Alors, c'est pas la faute de l'entraîneur, c'est la faute de l'effectif, pour deux raisons. Parce que d'abord, offensivement, l'arrivée de Mbappé a rebattu les cartes et il a fallu beaucoup de temps pour trouver un équilibre et pour trouver la bonne carburation.
Et au
moment
fragile.
Où les choses s'amélioraient, du fait aussi du retour en forme physique de Mbappé,
qui s'est,
je pense, réathlétisé et remis bien dans le recadré bien à ce niveau-là, les absences derrière ont déséquilibré l'équipe.
Et ça ne s'améliore pas.
Et surtout, tout cela nous montre à quel point l'effectif du Real est sous-dimensionné par rapport au budget et aux ambitions du club. On s'aperçoit dans cette équipe qui est supposée être un top 5 mondial, hein, en termes
top 3,
de...
quoi.
Top 3, top 5 en termes de budget, d'ambition
numéro 1,
et d'effectif.
Ouais, ouais,
ouais. Non, mais bon,
non,
voilà, parmi d'autres, qui a un manque de profondeur terrible.
Ou alors,
et donc, ça induit des incertitudes.
Il y a beaucoup de blessés aussi. Hein,
mais voilà, c'est ça.
Mais normalement, les postes sont doublés ou triplés dans une équipe comme ça.
C'est une précision d'horloger quand même, une équipe. Et on voit, alors Carvajal, après il y a Alaba qui était blessé.
Un latéral droit doit avoir une doublure naturelle. C'est du bricolage.
Alaba qui venait de revenir a rechuté. Rudiger maintenant
vient de se blesser.
Sur le flanc, donc ça veut dire qu'ils vont devoir
Beaucoup de Tchouaméni derrière.
Bricoler avec Tchouaméni qui est pas à l'aise à son poste.
Non, mais c'est bizarre parce que quand Courtois était blessé, ils avaient Lounine qui avait fait une campagne européenne jusqu'à la finale extraordinaire. Donc ça veut dire qu'ils avaient identifié que quand il y a un numéro 1 qui est pas là, il faut un numéro 1 bis qui est
fort. Mais
c'est
pas le cas
et
à tous les postes.
Tous les autres postes, c'est très léger quoi. Tchouaméni, c'est du dépannage. Moi, je suis pas fan de Tchouaméni.
Bah, je crois qu'il est pas fan lui-même de ce poste-là.
Ni les supporters ni la presse espagnols ne sont fans, mais il peut malheureusement pour lui il peut pas faire autrement. Il y a le jeune Asensio, mais il est très jeune pour jouer derrière.
Et puis ils ont perdu Militao aussi.
Mais toujours dans le recrutement.
Oui, voilà.
Quand vous avez perdu Kroos, ce qu'ils ne peuvent pas ignorer.
Mais ça, c'est pas blessé, ça.
Oui, mais ça, vous devez trouver quelqu'un qui.
Oui, mais ça, on en a déjà beaucoup parlé.
Bah oui, mais ça fait partie du
recrutement. Non, bien entendu.
D'autant que Modric est sur la pente nettement descendante.
Ah bah oui.
Donc ça fait beaucoup de créativité en moins. Et au final, pour moi, c'est le problème du Real, c'est Nabil a raison, c'est un manque de maîtrise inhabituel pour cette équipe. Qui est dû à un effectif qui s'appauvrit, en fait.
Surtout en
Mbappé
défense.
Est arrivé, certes, c'est évidemment un plus, a priori, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait.
On avait l'impression que ça s'améliorait un peu du côté du Real, pas forcément. En tout cas, venons-y à cette erreur d'arbitrage. Peut-elle expliquer ou tout excuser? Eh bien, le club entier, alors était évidemment furieux, on va l'entendre par la voix de Carlo Ancelotti. Je rappelle les faits. À la 61e minute, un certain Carlos Romero effectue un tacle. Alors, selon nos amis de SoFoot, c'est un tacle de charcutier. Hein, alors, je sais pas si vous confirmez, mais en tout cas, c'était pas joli à voir.
Salut les charcutiers.
Il le fait sur Mbappé.
Les charcutiers.
Et c'est lui qui va inscrire le but vainqueur à la 85e minute. Et c'est là que la pilule ne passe pas. Alors, écoutons Carlo Ancelotti, mécontent, avec son ton quand même toujours de tranquille, de monsieur tranquille.
Il y a eu cette faute inexplicable. Et puis cette non-décision de l'arbitre. Enfin, tout le monde l'a vu. La chose la plus importante, c'est de protéger le joueur. C'était une faute évidente. Une intervention très dangereuse. Un risque. Malheureusement, aucune sanction n'a été prise, mais le danger de blessure était bien réel. La VAR est là aussi pour ça. Il nous semble incompréhensible qu'il n'ait pas sorti le carton rouge.
Alors, le club a surenchéri, bien sûr. Il y a eu un communiqué parlant de scandale qui a traversé les frontières et la confirmation sans équivoque que la compétition est entachée par des décisions arbitrales qui sont impossibles à justifier. Alors, dans la foulée, même si Javier Tebas, le fameux président de la Fédération espagnole, a déclaré que ces critiques appartiennent à une campagne de dénigrement systématique, oui, de la Ligue espagnole, pardon, la Ligue espagnole. En même temps, l'arbitre, selon Marca, en tout cas, a été suspendu pour un mois au moins. Nabil, quand vous dites l'hôpital qui se fout de la charité, c'est vrai qu'on a souvent, en tout cas, on a souvent, je parle du Barça, ils ont aussi souvent dit oui, favoritisme.
Non, c'est un concours de victimisation, là, voilà. Entre les deux, quoi.
Mais en tout cas, ils se sont jetés sur les réseaux sociaux et ça a eu quand même un certain impact. On parle plus de l'erreur d'arbitrage que de la défaite du Real.
Oui, et ce qui est étonnant, c'est que Carlo Ancelotti, c'est pas son style. Et je pense que pour lui, arrivé à un moment, c'est plus facile aujourd'hui de parler de l'incompétence de l'arbitre sur ce coup-là, parce qu'il est vrai qu'il aurait dû y avoir carton rouge et qu'il faut protéger les artistes. Et Mbappé, effectivement, n'a pas subi une telle faute, plus que des limites de son effectif. Parce que contre le 17e, vous ne pouvez pas vous cacher derrière une erreur d'arbitrage. Maintenant, c'est quelque chose, c'est une vieille ficelle que les deux clubs utilisent depuis très longtemps.
Ça, là, c'est l'Armada Real voilà. Madrid.
Là, pour moi, c'est un concours de victimisation. Ils mettent la pression. Voilà. Et ça permet de ne pas parler. Ça permet de ne pas parler de ce dont tu as parlé en ce début d'émission, des limites de l'effectif du Real, quoi, dans certains secteurs de jeu.
Bah, c'est vieux comme le foot, Annie.
Kevin Vessière, est-ce qu'on pourrait parler de géopolitique de la part du Real Madrid, qui s'affirme toujours comme le plus grand club du monde, le meilleur club du monde, certes avec 15 Ligues des Champions, et ça, c'est un record inégalé, mais...
Y a une part internationale, en tout cas, parce que le Real Madrid, c'est un club qui dépasse les frontières, et puis le Classico face au Barça, c'est le match, on va dire, référence qui est vu partout, pratiquement dans le monde. C'est aussi ça qui porte la Liga. Après, je ne suis pas sûr que les conséquences, en tout cas, du tacle, comme ça a été dit dans le communiqué, aient eu des conséquences véritablement au-delà des frontières. Et qu'effectivement, je pense que le Real, ils ont surtout...
Il y en a qui n'ont pas dormi, paraît-il.
Il y a des problématiques, en tout cas, pour le Real au niveau de l'effectif. Parce que c'est vrai que la défense, en tout cas, est plutôt faible dès qu'il y a un absent. Et il y aura d'autres échéances. Et face au gros qui s'annonce, et notamment la Ligue des Champions, ça va être assez compliqué pour eux de se cacher derrière ses excuses.
Alors justement, le prochain adversaire, parce qu'on parle de Classico, mais il y en a un autre qui le devient presque actuellement et surtout au vu du classement, c'est évidemment face à l'Atlético. Et on va écouter Diego Simeone, parce que bon, vous le connaissez, l'Argentin. Eh bien, il a été quelque peu ironique, sans doute amusé d'ailleurs, parce que vous allez l'entendre, il défend les arbitres.
Historiquement, les arbitres ont toujours été sous le feu des projecteurs. C'est un sujet sur lequel nous avons tous une opinion. Mais il est très difficile d'être à leur place. Très difficile de devoir prendre des décisions, d'autant qu'elles doivent être prises rapidement. Aujourd'hui, ils ont la VAR, qui peut évidemment les aider et nous aider tous à améliorer les choses. Et j'y crois absolument.
Est-ce que ça peut faire sourire, Patrick, que Diego Simeone...
Rappelons juste que Romero, après avoir taclé Mbappé et n'avoir reçu qu'un carton jaune, c'est lui qui marque le but victorieux.
Oui, c'est ce que
je pense que dans la tête de Simeone, c'est ce qu'il aimerait bien faire lui. C'est-à-dire que jouer dur, contenir le Real et ensuite les piéger et les écraser 1-0, ça lui irait très bien. Et je pense que dans sa déclaration, il a un peu cette idée derrière la tête. Là aussi, c'est un peu ça me fait doucement rigoler, parce que Simeone, c'est quelqu'un d'assez véhément, qui n'hésite pas.
Oui, il se prend souvent des cartons sur le banc de touche.
Voilà, entre guillemets, pourrir le quatrième arbitre depuis son banc de touche quand ça ne va pas dans le sens qu'il veut. Donc, que maintenant, il soit très... qu'il fasse de la calinothérapie avec les arbitres, c'est marrant et c'est malin parce que c'est avant un match décisif, donc il les met
exactement
dans des bonnes dispositions.
Parce que contre-feu, Annie, il a un but, parce que vous l'avez dit, selon Markel, l'arbitre est suspendu pendant un mois, et puis c'est surtout, c'est la technique Jean-Michel Aulas, quand il était président de Lyon, c'est de mettre la pression sur les prochains arbitres. C'est qu'en fait, quand vous allumez un contre-feu comme ça, pour ne pas parler du fond, évidemment, tout le pays s'empare de ça, les journaux, la presse, les supporters, et donc, prochainement, les arbitres qui vont arbitrer le Real Madrid seront surveillés et eux-mêmes auront un peu... Ils se diront, bon, il y a eu ça au dernier match, ils ont été un petit peu... Parce que là, tout le monde reconnaît qu'il y avait carton rouge.
Non, mais et Kylian Mbappé est blessé quand même.
En plus.
Donc là, aujourd'hui, c'est officiel, je crois qu'il ne jouera pas au moins le match de la Coupe du Roi. Donc,
c'est toujours aussi le problème, c'est-à-dire que là, on est un peu dans la zone entre l'arbitrage un peu complaisant, mais on ne peut pas dire que c'est une erreur d'arbitrage puisque la faute est sifflée, il y a un carton qui a été donné. Ouais. Alors oui, le Real pense que c'est un rouge, beaucoup de gens le pensent aussi. On peut pas dire que non, mais on peut pas dire que il y a une erreur d'arbitrage en fait.
Bon, si en tout cas, à l'époque de la VAR, c'est vrai que des grosses erreurs comme ça, évidemment, ça se voit.
Et puis le
encore
but,
plus.
Le but, il n'intervient pas sur la contre-attaque. Donc bon.
Mais presque.
Faut pas exagérer. Ouais,
ça aurait été justifiable à l'époque où Diego Maradona avec le FC Barcelone, là pour le coup, charcuter dans tous les sens. Effectivement, là, si en conférence de presse, ils étaient arrivés, nous auraient expliqué qu'effectivement il y avait carton rouge, j'aurais dit oui.
Et il n'y avait mais pas 36 caméras autour d'un terrain. Dominique, vous le disiez, alors du coup, ça met dans l'ambiance là pour le prochain match parce que l'Atlético vient de l'emporter sur Mallorca 2-0. Ils ne sont plus qu'à un point du Real Madrid. Et on a quand même une équipe de l'Atlético. Ça sera à Bernabéu. Alors, ça sera l'Atlético visiteur. Et on aura un face-à-face entre Griezmann et Mbappé, avec un Griezmann étincelant actuellement.
Oui, qui est... Depuis qu'il a renoncé à l'équipe de France, il vit sa période Benzema. C'est-à-dire que Karim Benzema, lui n'avait pas renoncé, mais on avait renoncé pour lui.
Voilà.
Et pendant 5 ans et 7 mois, et a vécu ses meilleures années qui lui ont permis, au bout d'un moment, de décrocher un ballon d'or. Et là, bon, peut-être que ce sont les derniers feux d'Antoine Griezmann, parce qu'il pourrait rejoindre le championnat
MLS en
américain.
Mais il est complètement, il est dans son jeu. Après, il joue pas tous les matchs non plus.
Même en Ligue des Champions et tout, il marque partout.
Il est bon.
Alors, en ligne de mire, il y a bien sûr des Blaugrana, parce qu'eux, ils étaient en tête du championnat, on se souvient de leur décollage à la verticale en août dernier, et puis après, ils s'étaient un peu calmés. Les revoilà, les Blaugrana, ils ont battu Alavés, autre mal classé, mais eux, au moins, ils ont gagné, c'était compliqué,
1-0.
Juste 1-0, mais 18e but pour Lewandowski, et puis on a vu aussi un super Lamine Yamal.
Ah, ouais.
Ils sont seulement à 3 points du Real. Est-ce que ça veut dire que... Évidemment, tout est relancé. On a même, je le disais, l'Atlético Bilbao est à 4 points derrière ce Barça. Donc, il se détache un peu les 4 actuellement, mais remélange un peu tout, Nabil.
Oui, pour moi, de toute façon, c'était un peu...
Le Barça.
En fait, le Barça, il devrait avoir quelques points de plus parce qu'ils ont eu des trous d'air un peu étonnants par rapport à ce qu'ils produisent en termes de contenu, notamment en Ligue des Champions. Il y a eu des résultats qui sont un peu étonnants, mais ça veut dire aussi qu'ils sont pas encore totalement stabilisés, puisque Flick vient d'arriver. Il a réussi des choses jusqu'à présent fantastiques. Ils sont portés par une attraction avant extraordinaire. Vous citiez Lamine Yamal, Rafinha, le Brésilien, qui est incroyable, et Lewandowski. Pour moi, en fait, c'est la meilleure équipe d'Espagne. Voilà, en tout cas, en termes de spectacle. Le haut, très haut du Barça, il est au-dessus des autres équipes pour l'instant, mais comme le disait Dominique à juste titre, ils sont un peu gâtés parce que ils ont des top teams avec des modèles différents. Le Barça, le Real, mais l'Atlético Bilbao qui est construit totalement autrement et qui est quand même là en train de matcher les meilleures équipes. Ils ont un championnat, un vrai feuilleton à suivre avec des surprises. Nous ici, par exemple, le Paris Saint-Germain sur une jambe, ils gagnent tous leurs matchs. Les autres, c'est limite, ils ouvrent les portes du saloon, allez-y.
Là aussi, il peut y avoir des erreurs d'arbitrage, n'est-ce pas ?
Voilà, il peut y avoir des erreurs d'arbitrage. Mais en Espagne, le Barça, ça tombe parfois. Le Real, ça tombe parfois. Pourtant, c'est des très belles équipes. Et vous avez des équipes comme Bilbao et l'Atlético et Madrid de Simeone qui lâchent rien. Donc, je trouve qu'ils sont plutôt gâtés. Maintenant, je crois quand même que le final va jouer entre le Barça et le Real.
Moi, pour moi, c'est surtout la meilleure attaque, en fait, le Barça. 60 buts en 22 matchs, 10 de plus que le Real et presque 20 de plus que l'Atlético. Ça dit tout de cette équipe. C'est un peu plus friable, un peu plus déséquilibré. Mais c'est, si on doit retenir une équipe dont on est sûr, quand on allume sa télé sur la Liga, qu'on va voir un match spectaculaire, c'est le Barça.
Bien sûr.
C'est ni le Real, parce que le Real est un peu sur courant alternatif, ni l'Atlético, parce que de toute façon, n'en déplaise aux grands défenseurs de Simeone, le jeu de l'Atlético est souvent
Dominique,
un peu soporifique.
C'est un
sujet de même en Ligue des Champions, donc, Patrick, quand on regarde le Benfica, ça finit en 4-5. En termes d'un match de folie.
Et surtout, il y a des joueurs extraordinaires. Rafinha, le niveau qu'il atteint cette saison, on ne pensait pas qu'il pouvait l'atteindre, il le fait. Mmh. On a l'impression qu'ils se tirent mutuellement vers le haut, Lewandowski, Rafinha et Yamal, et c'est génial. Et même des joueurs comme Baldé. Alors, Baldé fait encore des erreurs et tout ça, mais c'est un joueur spectaculaire. Il y a de la vie, et je pense qu'il y a plus de marge de progression dans cette équipe que dans le Real, qui m'a l'air vraiment à bout de souffle. Et l'Atlético qui est régulier à un très haut niveau, mais qui, à mon avis, ne peut pas monter beaucoup plus haut. Ouais. Voilà, on verra la
Attention,
suite.
Parce que le Real, ils ont un niveau de résilience quand même qu'on a
oui,
vu par le passé.
Oui, et puis ils peuvent se refaire.
Tchouaméni en Ligue des en défense centrale, tu ne peux pas gagner.
Ils vont récupérer
mais ils avaient une autre.
Ils
avaient quand même un petit matelas de points d'avance. Et là, ils n'ont plus qu'un point d'avance. Et sur le Barça 4, c'est pas énorme non plus, Dominique.
En plus, il y a un petit barrage. Ils vont avoir à disputer un petit barrage, le Real Madrid.
Contre une petite équipe en ce moment, Manchester City.
Le cas du Barça qui est qualifié directement, ça fait toujours deux matchs de moins au calendrier, comme dans une saison où on rajoute un peu partout.
Ça va, ils ont un effectif.
Bah non, le Real, non, justement.
Enfin, ils
sont censés en avoir un, mais ils avec tous les blessés et les trous dans cet effectif, ils n'en ont plus.
Surtout
en fait.
Les trous en défense.
Ouais, ouais. Les manques.
Inquiétant. Quoi. Alors, vous miseriez presque sur le Barça, vous écoutez.
Oui, oui. Bon, moi,
la dynamique, en fait, la dynamique globale, Patrick a raison, ce qui lui arrive rarement, non, je plaisante. le Real, c'est vrai qu'ils ont un niveau de résilience qui est incroyable, mais on a quand même le sentiment d'une fin de cycle. Avec clairement. Le coach aussi, dont l'avenir est incertain. Une équipe en fait qui ressemble à l'équipe toute propre à autre échelle pour ceux qui sont derrière, mais à l'époque des Galactiques, ils disaient il y avait les Galactiques devant et les Pavones derrière avec Pavone et tout. Moi j'ai l'impression d'une équipe coupée en deux, les superstars devant. Alors des joueurs quand même d'un très bon
avec
niveau.
Avec un Rodrigo. Vois,
les petites stars derrière.
Tchouaméni,
c'est pas des joueurs moyens, c'est des internationaux. Mais il y a une asymétrie trop prononcée, je trouve, et un déséquilibre tactique. Alors que le Barça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un blockbuster. Tu prends du popcorn et tu regardes.
Mmh. Oui, et puis le Barça,
ils ont du pot.
T'as fait un pari sur l'asymétrie. Tu devais le placer aujourd'hui ou asymétrie, t'avais fait.
J'étais nul en géographie, un peu fier que les Arabes ont inventé le zéro. C'est ce dont seulement ce
l'algèbre, comme son nom l'indique. Non, mais c'est surtout l'équipe. On sent que c'est l'équipe qui cherche à gagner en marquant un but de plus que l'adversaire et qui calcule pas le Barça. Et de toute façon, elle a pas les moyens de le faire.
Non,
mais ça lui réussit.
Ils ont eu de la chance aussi d'avoir une cuvée Masia qui était excellente.
Oui, le Real et l'Atlético, c'est un peu
après,
plus.
Mais eux aussi, ils ont beaucoup de blessés.
C'est marrant que Flick fasse mieux que deux entraîneurs précédents qui étaient.
Xavi.
Qui étaient Xavi et Koeman qui avait joué.
Mais qui n'est pas un homme de la maison.
Qui
a peut-être moins d'affect et peut-être une gestion plus dépassionnée.
Je ne pensais pas que ça marche comme ça.
Xavi, il était mort dans le film puisqu'on lui demandait de faire ce qu'avait fait Guardiola. Et un copier-coller de ce qu'il avait vécu en tant que joueur.
Il y avait beaucoup d'espoir.
C'était,
mais il pas
le cahier des charges était terrible d'entrée. Quoi.
C'est sûrement pas un mauvais coach, mais c'est vrai que je pense que le Barcelone, c'était trop chez lui, trop affectif quoi, je pense, pour lui.
Voilà le point donc sur cette Liga et ce championnat espagnol. Et on va passer à un autre sujet. Et on salue l'entrée dans ce studio.
Et quelle entrée
D'Olivier Pron. Bonjour Olivier.
Je vous demande de vous arrêter. Bonjour Annie, bonjour à tous. Bonjour.
Avec Kevin, c'est eux deux qui vont nous donner la leçon là, et vous allez les aider à ça. On part tout de suite au Maroc.
Zaki ubudr bala
les indicateurs sont au vert plus qu'au rouge, hein, même si on parle du Maroc, puissance régionale au Maghreb, puissance sportive africaine auréolée depuis la Coupe du Monde au Qatar, de cette fameuse demi-finale et de cette présence dans le dernier carré mondial. Les Marocains sont d'ailleurs à ce jour 14e à la place du classement FIFA. Et dans une dizaine de mois, le 21 décembre prochain, eh bien, le Maroc accueillera l'Afrique pour la 35e CAN, dont le tirage au sort a déjà été réalisé. Vous y étiez, Olivier Pron, déjà réalisé parce que, ben, en fait, on avait déjà fini les éliminatoires juste avant qu'on ne fasse glisser cette CAN de l'été à l'hiver, une fois encore.
Oui, mais...
On reste sur 2025.
C'est plutôt pas un mal. J'ai vu des critiques ici et là, parce qu'il faut toujours critiquer. Et je pense que les Marocains, les Africains doivent se dire eh ben, quand on fait ça 2 mois avant, ils sont pas contents. Quand on fait ça 11 mois avant, ils sont pas contents non plus.
Non, c'est pas ça. Moi, c'est qu'il a fallu faire de la place à la FIFA dans
mais
le
c'est
calendrier.
Surtout, moi, j'ai vu des tas de gens qui étaient ravis d'avoir un tirage au sort 11 mois avant et des tas de sélectionneurs qui étaient ravis de pouvoir... voilà, même si certains seront peut-être plus en place dans 11 mois, mais tous ceux qu'on a croisés, et même d'anciens joueurs comme El Hadji Diouf et tout ça, disaient mais notamment pour les petites sélections, c'est génial, ils vont avoir le temps de se préparer, d'étudier les adversaires, donc voilà, critiquer pour critiquer, c'est 11 mois avant, moi je trouve ça plutôt pas mal.
Et puis, c'était pas le tirage au sort dont je parlais qui était critiqué, mais bon.
On parlait du tirage au sort pourtant la semaine dernière, et c'est vrai que voilà, certains, quelle était la meilleure date pour le faire, on l'aurait fait en juillet, on aurait dit c'était mais c'est le mondial des clubs, voilà. Les dates sont bonnes au Maroc. En revanche, c'est vrai que pour ce qui est de l'ambiance, parce qu'on m'en a beaucoup demandé à ce moment-là, ça, quand vous faites un tirage au sort 11 mois avant, très honnêtement, dans les rues de Rabat, tout le monde s'en fout. Soyons très honnêtes. On n'était même pas au courant qu'il y avait un tirage au sort le lendemain.
C'est pas toujours le truc le plus excitant. En tout cas, ils ont réalisé déjà le tirage au sort, mais surtout, ce qu'on peut constater, c'est qu'on aurait pu la faire presque maintenant, la CAN, parce que les infrastructures sont déjà là.
Ah, et puis on peut enchaîner avec la Coupe du Monde 3 mois plus tard, il n'y a pas de problème, tout
exactement.
Est en place.
Exactement. Or, on se souvient des autres CAN où à chaque fois, on fait des sujets sur est-ce que c'est prêt, est-ce que les derniers tas de la pelouse et tout ça. Et Kevin Vessière, justement, alors vous qui êtes spécialiste dans ce qui est la géopolitique du sport, en tout cas comment on pense le sport comme une arme aussi politique, voire politique internationale, c'est un signe que tout soit déjà prêt pratiquement un an avant le coup d'envoi.
Oui, et puis à travers cette cérémonie aussi du tirage au sort, il y avait comme une volonté de faire passer la CAN dans une autre dimension au niveau des standards des autres compétitions continentales comme l'Euro ou même la Gold Cup. Donc effectivement, de passer outre les critiques qu'ils peuvent avoir par rapport aux différentes CAN qu'ils peuvent avoir par le passé, notamment au niveau des stades, au niveau là où il y aura 24 camps de base pour les 24 équipes présentes. Il y aura aussi le fait qu'il n'y aura pas deux matchs qui s'enchaîneront sur le même terrain, ce qui était le cas pour les précédentes CAN. Donc il y a une volonté finalement du Maroc de montrer que à travers les infrastructures, en tout cas, ils incarnent à la fois une puissance sportive, mais aussi une puissance régionale et qui sont les fers de lance du football africain. Après, il faut que ça se traduise aussi au-delà des infrastructures, sur le terrain, ce sera un autre débat.
Mais justement, les infrastructures, c'est intéressant, parce que ça veut dire que les supporters pourront aller d'un bout à l'autre du pays très facilement parce qu'il y a le TGV ou parce qu'il y a des avions, il y a assez d'hôtels, il y a tout ce qu'il faut pour organiser une CAN avec 24 équipes, alors que parfois, certains pays avaient du mal à pouvoir être candidats pour 24 équipes.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que à travers ce projet de Vision 2030 que beaucoup de pays ont, c'est que aussi avec cette CAN 2025 et puis surtout la Coupe du Monde 2030, il y a un véritable projet de modernisation du Maroc à travers effectivement les infrastructures, notamment sur le volet au niveau des aéroports, au niveau aussi des lignes TGV. Donc aussi pour finalement mailler le territoire et faire qu'il y ait des connexions effectivement pour la population marocaine, mais surtout pour les touristes et valoriser l'image du Maroc à l'international.
Deux choses là, sur l'aéroport, c'est flagrant à Rabat. D'ailleurs, ça m'avait un peu choqué il y a 2 ou 3 ans quand on était allé pour l'élection de Patrice Motsepe qui s'était déroulée à Rabat, déjà bien, bien manipulé par les Marocains, avec l'aide de Gianni Infantino, bien sûr, cette élection de Patrice Motsepe. L'aéroport m'avait semblé assez indigne d'une capitale d'un pays comme le Maroc.
Oui, la capitale administrative.
Je peux vous dire qu'ils sont en train de mettre, il y a encore 3-4 mois de travail, la dernière main, les dernières pierres sur un terminal à l'aéroport de Rabat qui n'aura rien à envier aux terminaux des aéroports européens. On passe vraiment totalement d'un extrême à l'autre, avec un immense... Alors, voilà, il ne faut pas exagérer. exagérer, on n'est pas Roissy, on n'est pas, mais enfin, ce terminal-là aura vraiment de la gueule. Il semble assez énorme et on nous a assuré qu'il serait bien prêt parce qu'on a tendance à dire bah, tout ça c'est pour la Coupe du Monde. Non, non, c'est pour la CAN. L'objectif vraiment de cette CAN, c'est de montrer que on est prêt dès maintenant à accueillir la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, quand on a appris qu'il y allait avoir 9 stades, que ces camps de base, on s'est dit mais attendez, comment ça, on va pas jouer. Et en fait, le mot d'ordre là-bas, c'était vraiment non, on est en mode Coupe du Monde.
On se met déjà sur le modèle Coupe du Monde.
Fonctionner comme on fondationne dans une Coupe du Monde avec des équipes camp de base.
Mondialito comme il y avait à l'époque.
Exactement, Mondialito, oui. Et quant aux infrastructures, oui, les routes sont impeccables, évidemment, et les infrastructures hôtelières, elles sont faites depuis fort, fort longtemps.
On va écouter Aziz Bouderbala, ancien grand joueur marocain, mais aussi membre du comité exécutif de la Fédération marocaine. À votre micro, Olivier, il disait évidemment toute la satisfaction marocaine de ces événements à venir.
On vient d'ouvrir un bureau FIFA ici à Rabat. Aujourd'hui, cet accord avec l'Association africaine des clubs. Et nous savons très très bien, c'est-à-dire par rapport aux déclarations du président de la FIFA, il nous a toujours rappelé que l'avenir du football mondial, c'est dans le continent africain. Et donc ce qui fait, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc, avec les infrastructures qui existent, avec où il se trouve entre deux continents, vraiment c'est un point stratégique. Et je pense que le Maroc il a un rôle très très important justement pour le développement du football africain. Et surtout, bientôt il va y avoir le championnat du monde des clubs et qu'il y a des clubs importants africains qui vont se poser ou se mesurer avec les plus grands clubs du monde. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de très très bien.
Et puis au sein des sélections, on a la CAN qui arrive. Et la CAN, ça n'est qu'une étape. Après, il y aura la Coupe du Monde. Le Maroc est partout.
Bah oui, il y a la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, mais aussi les compétitions du football féminin. Bon, j'espère que tout se passera bien, mais c'est vrai que le Maroc, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une position idéale pour pouvoir, bien sûr, donner la vraie image d'abord de notre pays et de notre continent africain, parce que vraiment, le continent africain, c'est un continent qui contient beaucoup de richesses, que ce soit humaines ou autres, et j'espère qu'on va pouvoir en profiter.
La CAN arrive très très vite, oui. C'est une fierté de l'organiser, c'est aussi une manière de montrer, regardez, la CAN, on l'organise et on vous montre qu'on est prêt pour la Coupe du Monde de 5 ans plus tard.
Oui, surtout on va utiliser 9 terrains, c'est contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et donc il y aura beaucoup de facilité, beaucoup de... c'est-à-dire un confort vraiment, surtout pour les équipes qui vont y participer. Et ça, c'est très très important pour les acteurs les plus importants, ce sont les joueurs. C'est pour cela que je ne cesse de me répéter qu'il faut qu'on en profite, vraiment. Il faut qu'on profite de cet événement. Disons une petite mini Coupe du Monde qu'on va organiser.
Heureux et à juste titre, Olivier, parce que c'est vrai que ça fait des années qu'il se prépare. Depuis en gros une quinzaine d'années, le Maroc a mis beaucoup d'importance sur ses infrastructures. Et nous, on le sait, quand il y a des matchs éliminatoires et que tant de pays, plus d'une vingtaine de pays, n'ont pas de terrain homologué par la CAF, eh ben, ils jouent toujours au Maroc.
C'est ce que disait Stéphane Cousine. Oui, c'est ça, qui nous disait qu'avec les Comores, il avait joué au Maroc, tous ces matchs de qualification, c'est le sélectionneur donc des Comores. Avant, il était avec le Soudan, il a joué tous ses matchs au Maroc. Donc, il a dit, moi, je connais déjà toutes les infrastructures. Voilà. Et il y a pas mal de effectivement, je pense que les pays hôtes des pays sans stade, c'est en ce moment, et depuis un an ou deux, la Côte d'Ivoire, évidemment, qui vit des cannes à peu près tous les 3 mois, des petites
Afrique
cannes.
Du Sud
et puis le Maroc, beaucoup, beaucoup.
Il y en a 3.
Kevin Vessière, une chose aussi, on parle de soft power, c'est-à-dire d'apparaître sur la scène nationale et international, continental et international à travers le sport, comme d'autres pays. Évidemment, on pense tous ici au Qatar parce que c'est la dernière Coupe du Monde. À la différence, c'est que tous ces stades seront utilisés avant comme après, parce qu'il y a un championnat, il y a une vraie passion du football et il y a des clubs de foot intéressants. Il y en a même un dans le Mondial des clubs qui va se dérouler aux États-Unis cet été.
Oui, ça, c'est la sûr force. Qu'au niveau de, il ne pourrait pas y avoir de critique comme au Qatar, au niveau de, en tout cas de la passion sportive et le fait que le Maroc est une nation sportive et une nation de football. Donc là, là-dessus, c'est vrai que, en tout cas, le, et puis le Maroc a envie de bien faire aussi, puisqu'ils n'ont pas organisé beaucoup de Cannes. La dernière qu'ils ont gagnée, c'est en 1976.
Ils devaient organiser celle de 2015. On se souvient des conditions dans lesquelles ils l'ont refusé parce qu'il y avait un virus Ebola et tout ça. Oui. Ils sont très revanchards pour ça, parce qu'ils
donc
ont été
a,
un peu...
Il y a aussi une volonté, finalement, de, d'organiser cette, cette Cannes, mais aussi de, d'avoir aussi cette capacité d'accueil de l'Afrique et de montrer aussi que c'est eux la, la puissance à la fois sportive, mais aussi économique, qui peut accompagner, en tout cas, tous ces projets-là. Après, effectivement, c'est vrai qu'une CAN au Maroc, avec l'ambition qu'il y a derrière en termes d'infrastructure, ils sont pratiquement dans l'obligation de la gagner derrière.
Ah oui, sportivement.
Ils ne le cachent pas. Hein. On avait entendu, je ne sais plus lequel de vous deux était dans l'émission juste après le tirage au sort, où on avait diffusé la réaction de Walid Regragui, qui était venu à notre micro, entre autres. Bon, il n'avait échappé à aucun micro, hein, forcément. Et il ne se voile pas du tout la face. Non, il assume totalement d'être le méga favori.
Je n'ai pas le classement FIFA en tête, mais...
14e, ils sont en tête. Oui, c'est la meilleure équipe d'Afrique.
Bah, voilà, donc,
au classement FIFA.
Très nettement, au classement FIFA.
La meilleure équipe d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, mais ça aujourd'hui. Parce qu'ils sont champions d'Afrique.
Ils sont champions d'Afrique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils sont la meilleure équipe d'Afrique? Je ne suis pas sûr, mais ils sont champions d'Afrique.
Je veux dire, en tout cas, c'est... au classement FIFA, oui, mais après, il faut valider avec des titres.
On pensera au champ
là-dessus pour savoir qui est le favori.
Après, la pression, elle sera, comme il le disait avec Raguir, elle sera forcément immense, énorme la pression. Elle peut être négative.
Si la CAN n'avait pas eu lieu au Maroc, je pense qu'on aurait quand même fait du Maroc le favori.
Oui, mais c'était le cas en Côte d'Ivoire. Ouais. Ils arrivaient demi-finale de la Coupe du Monde avec, avec une dynamique incroyable. Mais là, effectivement, l'environnement
en match amical, le Brésil
surtout,
et tout ça.
Regragui a fait évoluer l'équipe. Depuis.
Ça peut faire penser au CHAN. Quand ils organisent le CHAN, si je ne me trompe pas, c'est 2017 exact. Ou 2018.
18.
En janvier, et où ils l'organisent chez eux, ils le gagnent, et de belle manière en plus.
Ils le gagnent, effectivement, avec des joueurs, des révélations. On se rappelle Naïef Aguerre, Del Khaavi, effectivement. Moi. La CAN, c'est quand même un niveau d'adversité et de pression bien supérieur. Donc, il faudra gérer tout ça. Le premier tour, à mon avis, ça ne leur posera pas de gros problèmes, même si la poule n'est pas la
bon
plus
test,
simple.
Hein. Mali,
mais...
Zambie, Comores, c'est des footballs
différents. Oui, mais il y a 3 qualifiés, donc pratiquement.
Oui, c'est vrai, c'est
dans le cadre groupe sur 6.
C'est plus difficile de ne pas se qualifier que de se qualifier. Quoi.
Mais après, effectivement, ce sera l'heure de vérité. Moi, je trouve qu'il a Regragui, il était arrivé à la dernière CAN sur la lancée de la Coupe du Monde. En cultivant le même groupe, et ils étaient un peu saturés, je pense. Oui. Et là, au contraire, je trouve, comme je l'avais dit l'autre soir, il a bien ouvert les fenêtres, il a bien régénéré le groupe, intégré des jeunes talents, notamment des binationaux, dont Ben Seguir et tout. Donc, je pense qu'il a plus d'armes qu'en Côte d'Ivoire.
Kevin Vessière, autre question, il y a ce stade en construction en banlieue de Casablanca, c'est le stade Hassan II oui, parce que l'autre s'appelle Mohamed V.
C'est
donc,
le plus grand stade du
Mohamed V, Mohamed VI, Hassan II, jouez
c'est
autour des trois, vous êtes sûr de tomber juste.
C'est le nom d'un roi. En tout cas, il prévoit 115 000 places et leur rêve, du coup, de s'imposer, parce que ça serait le plus grand stade du monde.
Ils veulent la finale.
Ça serait d'accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. Sur le territoire. Ça aussi, ça pose une ambition géopolitique.
Ah oui, ça pose une ambition géopolitique parce que, à travers en tout cas cette Coupe du Monde, ce sera la deuxième qui sera co-organisée avec l'Espagne et Portugal. Il y a quand même une dimension d'accueillir cette finale. Et donc, c'est vrai que chaque compétition qui va avoir lieu sur le territoire marocain à travers les stades qui sont modernisés, ça va être en tout cas derrière une ambition pour le Maroc pour pouvoir accueillir cette finale de Coupe du Monde parce que c'est quand même le match qui est le plus suivi durant cette phase de Coupe du Monde. Et après, effectivement, l'accueillir à travers ce stade de 115 000 places et le remplir après, à travers la ferveur marocaine et à travers aussi la ferveur populaire qu'il y aura autour d'une Coupe du Monde, ça, j'en doute pas. Derrière, effectivement, il y aura aussi, je pense, une ambition sportive qui sera adossée à l'ambition à la fois de soft power avec ce stade-là. Donc, effectivement, que le Maroc puisse y jouer et gagner dans ce stade.
Cette ambition du Maroc, on s'étonne parfois. On sait qu'ils sont très puissants à la CAF, hein, qu'ils ont l'oreille du président et de beaucoup de personnes.
Ils ont un président de fédération, Fouzil Ekja, qui est quand même le grand argentier du royaume d'un côté, le grand argentier de la CAF de l'autre, et donc extrêmement puissant et influent.
Il préfère rester moitié dans la lumière et moitié dans l'ombre, c'est-à-dire montrer qu'on a des belles infrastructures, qu'on sait organiser, et en même temps ne pas prendre par exemple les rênes de la CAF. de la Confédération africaine.
Après, je pense aussi que c'est peut-être plus facile pour lui d'être aussi à la tête effectivement de la fédération marocaine et puis derrière de pouvoir faire jouer ses relations là-dessus. Après, on sait que la CAF, c'est encore plus politique et il y a quand même une ambition à travers la Coupe du Monde 2030 et puis aussi de faire effectivement du Maroc une place forte du football à travers effectivement ce que vous avez pu dire, mais aussi la mise en place du bureau régional de la FIFA en Afrique au Maroc. Donc ça aussi, ça a son importance et ça peut jouer par la suite.
Il rafle tout au nez et à la barbe des Algériens. À chaque fois, le bureau de la FIFA s'installe donc au complexe Mohamed VI, un autre roi, leur Clairefontaine, mais version 21e siècle. Le bureau de l'ACA, vous en parlerez demain, l'association des clubs africains, je crois, sans rien dévoiler, s'est installé aussi là-bas et les Algériens étaient candidats également pour... on sent bien que le football africain, il tend vraiment vers le Maroc, indubitablement.
Une autre question, c'est que 2025 marquera les 40 ans de la Marche Verte. La Marche Verte, c'est... 50 ans. C'était cette marche de l'armée qui s'était mise en route vers le sud du Maroc et qui avait annexé ou qui s'était installée dans ce qu'on appelait à l'époque le Sahara espagnol, qui est devenu le Sahara occidental, quand les Espagnols ont laissé le territoire. On sait que les États-Unis ont reconnu cette présence marocaine dans cette région, les États-Unis, l'Espagne.
La France a suivi aussi pour reconnaître
la France aussi récemment. Est-ce que ça peut jouer sur la participation au moins à la CAN de l'Algérie? On se souvient du CHAN en Algérie où il y avait eu de gros problèmes entre le Maroc et l'Algérie à ce moment-là. C'était le CHAN ou c'était
le CHAN. Et puis il y a eu ensuite l'affaire RS Berkane USM Alger.
Voilà,
avec
exactement.
La carte de controversée sur le maillot des Marocains.
Est-ce que
qui
ça
ont entraîné le forfait des U-Smith.
Ça peut entraîner des problèmes avec les équipes nationales.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette question du Sahara occidental et le Maroc qui fait une activité diplomatique pour faire reconnaître la souveraineté sur ce territoire-là.
Il n'y aura aucun match là-bas. Hein.
Oui, il y aura aucun match là-bas, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la CAN, dans la communication et même au niveau de la communication de la Coupe du Monde, la carte du Maroc, elle inclut le Sahara occidental. Donc, il y a déjà une vision politique, un intérêt politique d'affirmer en tout cas la souveraineté à travers les cartes et des compétitions sur ce territoire.
Marquer les esprits avec cette géographie.
Après, c'est encore trop tôt pour le dire s'il y aura un boycott de l'Algérie ou pas, puisqu'après, effectivement, ça rentre sur le champ politique. Et puis, d'ici là, la situation géopolitique aura peut-être évolué. Mais c'est vrai que cette question est très présente, notamment dans les rapports franco-algérien. Et donc, si ça dépasse le cadre, en tout cas sportif, au-delà de la sélection algérienne, à voir jusqu'où ça pourra aller, un boycott ou des messages politiques dans les stades.
Nabil, on se souvient de ces épisodes où les joueurs partent, ne partent pas, les avions qui sont autorisés ou pas à survoler. Il y avait eu ce problème au cours du CHAN. Est-ce que les équipes ou les joueurs peuvent se sentir, alors qu'ils se qualifient logiquement.
Non, mais au sortir de l'histoire de Berkane et de l'USM Alger, il y a régulièrement eu des matchs entre clubs algériens et clubs marocains. Les Far Rabat sont déplacés pour jouer du côté de l'USM Alger. Il y a eu des catégories jeunes aussi qui se sont affrontés sur le terrain.
Les autorités utilisent seulement certains matchs, c'est ça
marocains. Non, il y a eu... Il y a eu un casus belli sur cette histoire de Berkane que je rappelle. Je rappelle que c'est on a aussi en attente d'une décision du TAS, puisque les Algériens et l'USM
Tribunal Alger, arbitral du sport.
On fait un recours au niveau du TAS pour cette histoire de maillot avec une représentation géographique, parce que ça peut donner un cas de jurisprudence, parce qu'il peut y avoir aussi dans d'autres coins du monde ou du continent, parfois...
Entre les deux Soudans.
Des problèmes géopolitiques. Donc, est-ce qu'il faut utiliser des cartes sur les maillots ou pas? On verra ce que dira le droit et le droit international. Maintenant, pour être un peu cash, pour moi, l'Algérie, elle sera à la CAN au Maroc. C'est une évidence. Tout simplement parce que déjà l'Algérie ne peut pas se mettre hors jeu au niveau de la Confédération africaine de football l'Algérie c'est le plus grand pays d'Afrique, ne peut pas être en dehors de l'Afrique et en dehors de la grande fête du football africain. Je l'imagine pas une seule seconde.
L'équipe s'est qualifiée sur le terrain.
S'est qualifiée sur le terrain, il y a une génération de joueurs et puis le football c'est pas que de la politique, c'est un sport. Donc, pour les Algériens et pour le public algérien, ils attendent de voir leur équipe nationale briller, quoi, tout simplement. Quoi.
Oui, et il y en aura du public, on l'a évoqué tout à l'heure, les Marocains sont fervents. On parle des Algériens qui peuvent venir. Alors, si ce n'est qu'il n'y a pas de liaison aérienne, moi j'avais dans mon vol pour aller à Rabat les U15 filles et garçons marocains qui rentraient d'un tournoi. Qu'ils avaient remporté, alors eux appelaient ça la CAN, c'était le, en fait c'était la coupe des centres de formation d'Afrique. Ils rentraient d'Algérie, les filles avaient gagné, les garçons étaient deuxièmes, et ils arrivaient, ils avaient été obligés de passer par Paris. Voilà. Mais oui, bon, on est supporters, et la grande nouveauté, on en parlait tout à l'heure, juste avant de terminer, c'est qu'on risque aussi de voir des stades avec des supporters européens, ce qu'on n'a pas vu souvent. Beaucoup de gens, c'est les fêtes, prévoient de prendre une semaine de vacances. Bah oui, mais là, c'est en plus les fêtes. Donc, c'est facile d'aller se poser à Agadir, à Marrakech, et d'aller voir des matchs. Agadir, Marrakech, c'est 2h30 d'autoroute, nickel. Donc, moi, j'entends autour de moi beaucoup de gens qui se disent, tiens, on va aller voir des matchs de CAN pour une fois.
Oui, j'avais une question pour Kevin. Quand vous parliez du Qatar tout à l'heure, Annie, quand les géopolitologues parlent d'une autocratie pour le Qatar, là, c'est le Maroc, c'est une monarchie comment ? Comment on peut la qualifier ?
Ah bah, après, le pouvoir est très concentré autour du roi Mohamed VI. Après, il y a quand même une volonté aussi, à travers le sport en tout cas, de raconter une histoire, de faire du storytelling. Enfin, il y a un jeu de soft power et d'influence. Et donc, finalement, de construire son image autour du Maroc, finalement, d'une monarchie éclairée, d'un pays moderne. Ça passe aussi par les infrastructures, c'est mais vrai, ça passe aussi... Après, ça reste en tout cas à discuter. Mais là-dessus,
bon,
après...
Il reste 4 minutes.
Après, effectivement, ça pose aussi la question de savoir... parce qu'au Qatar, il y avait beaucoup de questions autour de... On critique le Qatar aussi, parce que les critiques venaient principalement et les boycotts des pays occidentaux. Il y avait un certain débat qui s'insinuait. Et il y avait, en fait, finalement, on voulait mettre la vision de l'Occident sur cette compétition. Donc, s'il y a ces critiques-là, il y aura aussi ce débat qui va pouvoir, en tout cas, revenir par la suite.
Une dernière question, Kevin, au sujet de tout ça, c'est que finalement, le Maroc va rentrer dans ce cercle fermé des pays qui ont accueilli une Coupe du Monde, mais en plus en Afrique. Jusqu'à présent, il y en avait eu enfin une, c'était en 2010, c'était en Afrique du Sud. Et là, on aura deux phares un peu opposés, l'Afrique du Sud et le Maroc. Ça grandit aussi, le pays ?
Ah bah c'est un marqueur, c'est comme organiser des Jeux Olympiques, enfin des grandes compétitions internationales sportives. C'est si j'ai organisé en tout cas une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, je peux faire partie en tout cas de ce cercle fermé de puissance confirmée ou émergente. Et je peux dire en tout cas, je peux m'asseoir à la table des autres pays et dire j'ai organisé ma Coupe du Monde ou...
Donc
des
ça donne
ou
une
des Jeux Olympiques après, pourquoi
puissance.
Pas pour la suite.
En même temps, ce sont les deux seuls qui peuvent. Soyons très honnêtes, aujourd'hui, au moment où on se parle, à part l'Afrique du Sud et le Maroc, je vois personne d'autre en Afrique capable d'organiser une Coupe du Monde. Et d'ailleurs, vous parlez de Jeux Olympiques, il est évident que les Marocains vont se positionner. La semaine dernière, on a entendu dire que l'Afrique du Sud se positionnerait pour poser sa candidature pour donc les Jeux de 2036.
Et 2040 aussi, avec
le CAF. Voilà, et moi, j'ai aucun doute sur le fait que le Maroc va enchaîner. Cannes, ça, c'est de la roupie de Sansonnet. Coupe du Monde derrière, ils sont prêts. Bah, alors, l'étape suivante, c'est forcément les Jeux Olympiques.
Coupe du Monde, rappelons quand même que c'est en 2030 et que c'est co-organisé.
Oui.
Ils seront 5 pays. On sait déjà que le match inaugural, ça sera en Uruguay, justement, pour commémorer les 100 ans, plus ou moins, de cette Coupe du Monde. Mais ensuite,
quoi.
il y aura 3 matchs.
Espagne, Portugal, Maroc, essentiellement.
Essentiellement, mais il y aura quand même 3 matchs en Amérique du Sud, au Paraguay, en Argentine.
Non, mais les prochaines étapes pour le Maroc, avant peut-être les Jeux Olympiques, qui peuvent aussi postuler pour le départ du Tour de France, pourquoi pas, et peut-être être le premier pays d'Afrique qui organise un Grand Prix de Formule 1. Ça, à mon avis, c'est des ambitions possibles.
Alors, l'Afrique du Sud, le Rwanda, et le Rwanda récemment, le Rwanda là en ce moment.
Le Rwanda, il y a...
Mais le Rwanda, c'était
y a du travail.
Hein, et voilà, bon, ouais, on va voir ce que ça donne dans les mois qui viennent.
Merci beaucoup, messieurs, pour cette leçon de géopolitique. Merci beaucoup, Kevin Vessière, de nous avoir décodé un petit peu tout ce qui se passe autour du Maroc ces temps-ci. Les amis, on parlera de Randall Colomoini sans vous demain, Dominique. Je suis désolée. Il a marqué un doublé.
Randall Colomoini,
on en parlera demain.
Le mieux, c'est Luis Enrique.
On en parlera demain. Merci à tous.